avoir suivi. À très bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
h 05 ici à Washington, 18h05 en temps universel. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur VOA Afrique. Alexandrine Rollognon pour votre émission. À votre avis, nous parlons aujourd'hui des femmes et des difficultés liées à l'immigration. Une photo explicite largement diffusée sur les médias sociaux montre le corps sans vie d'une femme noire aux cheveux tressés à côté d'une fillette. Le visage enfoncé dans le sable, il s'agit de la femme et de la fille du Camerounais Mbengue Nimbilo Crépin qui affirme que les autorités tunisiennes l'ont abandonné ainsi que sa femme et sa petite fille âgée de 6 ans et d'autres personnes à la frontière libyenne en pleine chaleur sans eau ni nourriture. Tout comme cette mère et sa fille, nombreuses sont les femmes qui sont confrontées à toutes sortes de difficultés sur les routes de la migration. Certaines d'entre elles subissent des violences, de l'exploitation, la discrimination. Comment protéger les femmes contre ces violences liées à l'immigration? Pour cette discussion, nous aurons des témoignages, vos réactions laissées sur nos plateformes digitales et l'avis d'une personne ressource qui accompagne les migrants de retour pour leur réinsertion. Sans plus tarder, de Dakar, nous avons Aïssatou Ndiaye. Bonsoir Aïssatou.
Bonsoir madame.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes migrante de retour de Dakar également. Nous avons Alioune Fall. Bonsoir Alioune.
Bonsoir madame, vous allez bien?
Je vais très bien, merci de nous rejoindre. Vous êtes le président de l'association Sama Chance, une association créée pour sensibiliser à la migration irrégulière et favoriser le retour et la réinsertion sociale des migrants. Aïssatou, vous avez vécu l'immigration d'abord en Russie, vous avez tenté l'immigration irrégulière également vers l'Espagne grâce à une passeuse. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement votre expérience? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous aventurer vers l'Espagne?
D'accord, merci. Tout d'abord, comme je l'ai dit, j'étais en Russie en 2018. C'était pour mes études. Alors, je suis la langue russe. Donc, je n'étais pas partie vraiment pour tenter l'immigration irrégulière. J'étais bien partie avec des papiers légaux. Donc, une fois en Russie, j'avais des problèmes et des difficultés. Et donc, comme je ne voulais pas rentrer au pays, c'est-à-dire au Sénégal, je me suis dit que pourquoi pas aller tenter ma chance à l'extérieur, exemple la France, pour travailler et voilà. Donc, c'est par là que j'ai eu à être influencée par des Sénégalais qui ont passé par Maroc, par une passeuse, bien sûr, une femme. Donc, c'est cette femme-là qui m'a piégée et qui m'a mis vraiment dans cette calvaire où j'ai eu à faire la Méditerranée. Après, on m'a poussée à aller en Algérie par pied, puis au Niger et au Sénégal. Donc, mon expérience est... C'est que, voilà, j'ai été piégée par une femme sénégalaise qui a pris mon argent, 1 500 000, et qui m'a dit qu'elle va m'amener en Espagne par bateau. Et finalement, j'ai aperçu que c'était Zodiac. Donc, j'ai vécu pas mal de difficultés où il y a eu des morts. J'ai rencontré énormes difficultés en tant que femme avec d'autres sœurs migrantes de retour. Voilà.
Si vous le désirez, on pourrait revenir tout à l'heure un peu plus en détail sur les cas, les difficultés que vous avez connues. Mais d'abord, je vais m'appesantir sur les raisons qui vous ont poussé à tenter l'expérience. Pour vous, c'était d'abord les études. Vous étiez en Russie et vous n'avez pas voulu rentrer après la Russie, mais continuer dans l'espace Schengen pour poursuivre vos études. C'était bien cela?
Oui, c'était ça.
Alioune Fall, j'aimerais comprendre avec vous les raisons principales qui conduisent les femmes sur la route de la migration.
Bonsoir madame, je vais d'abord présenter mes excuses et pour la qualité peut-être de...
La qualité est très bonne.
Du son, ça passe bien?
Oui, on vous entend parfaitement.
Ah, ok, c'est cool alors. Donc, pour les raisons qui poussent les gens à migrer, elles sont nombreuses. D'abord, elles sont d'ordre économique. Le plus souvent, que ce soit les hommes ou les femmes, les raisons sont d'ordre économique, social. Mais ensuite, les gens aspirent à une réalisation de soi, parce que nous avons un visage très reluisant de la migration. Les gens qui nous viennent de l'extérieur, que ce soit des États-Unis, d'Europe, très souvent, ils ont de belles bagnoles, ils ont de l'argent, donc ils sont en train de frimer. Donc ça, c'était le premier aspect qui a conduit les gens à vouloir sortir de ce pays, parce qu'ils ont vu une réalisation de soi. Maintenant, nonobstant également les difficultés que les gens vivent, parce que, comme vous le savez, le taux de chômage touche beaucoup la France jeune. Les gens sont frappés par la pauvreté également. Donc, tous ces aspects font que les gens ont envie de sortir, d'aller vers un Eldorado, entre guillemets, et pour se réaliser.
Et est-ce qu'il y a une particularité entre les raisons qui poussent les hommes et celles qui poussent les femmes à partir? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux?
Absolument, il y a une différence parce que pour les femmes, très souvent, au début, c'était juste pour le regroupement familial. Donc, ils allaient rejoindre leur conjoint en Europe ou aux États-Unis. Mais finalement, vu la situation, les choses ont changé. Actuellement, la plupart vont tenter l'émigration pour des raisons économiques. Donc, il n'y a pas une très grande différence à part le premier aspect qui a été dit et qui est maintenant dépassé.
On va écouter un premier avis d'un auditeur qui nous vient du Cameroun, Justice.
Bonsoir, la VOA Afrique. Ok, pour répondre à la question, d'abord, la protection des femmes contre les violences liées à l'immigration est une préoccupation majeure qui nécessite une intervention immédiate pour sauver toutes ces personnes sans espoir dans le désert. Les mesures qui peuvent aider à protéger les femmes dans ce contexte pourront être la sensibilisation et d'informer les femmes migrantes sur leurs droits et les risques de migration et des programmes éducatifs. Comment se protéger tout ça? Ces personnes méritent accès à la justice. Ils méritent d'avoir des mesures pour faciliter l'accès à des avocats compétents et à des traducteurs de langue si nécessaire pour leur faciliter de communiquer facilement. Les autorités achètent des armes de combat au lieu de mettre une partie de cet argent pour répondre aux problèmes sociaux de la population. Malheureusement, non plus. Il faut que les Tunisiens aient une compassion envers leurs frères. Pourtant, la Tunisie est un pays d'Afrique. Mais quoi, toutes ces méchancetés des pays maghrébins à l'égard des autres pays noirs. Les pays d'accueil des migrants doivent pratiquer l'hospitalité. Je propose qu'on crée des centres d'hébergement des migrants avec des personnels formés et sensibles aux problématiques migratoires dans chaque pays du monde. Et je pense qu'à la tête des pays africains, nous avons des chefs d'État qui sont des professeurs et qui ont étudié dans des grandes institutions dont je crois qu'ils savent de telles petites choses, mais ne le font pas pour des raisons que beaucoup ignorent et d'autres savent. La coopération entre les pays d'origine, de transit et de destination permettra de garantir la protection des femmes migrantes. Les gouvernements devraient travailler ensemble pour élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à prévenir et à combattre les violences liées à l'immigration.
Les approches de solutions proposées par Justice au Cameroun pour protéger les femmes sur la route de la migration. Aïssatou, je reviens vers vous. Vous étiez sur un Zodiac qui a connu un naufrage. Vous avez connu la détention avec d'autres migrants. Y a-t-il une particularité en tant que femme? Comment avez-vous vécu cette expérience?
Oui, bien sûr, il y a une particularité parce que quand on dit les femmes, on ne vit tout ça. Les femmes sont très vulnérables, effectivement, parce que en tant que femme, on a des risques d'être violée et tout. Et parce que parfois, on dormait en plein air, c'est-à-dire sur le désert et tout. Donc, on avait des risques d'être violée et tout. Parce que moi, je suis témoin de voir des femmes qui accouchaient en plein air. Et parfois aussi, en tant que femme, on a le mois de... Voilà, on doit avoir nos règles et tout. Et tout ça, c'était des problèmes. Donc, y avait vraiment une particularité. On nous faisait peur vraiment. La maltraitance venant des Maghrébins, c'était vraiment intense. Donc, y a vraiment une particularité entre nous et les hommes. Voilà.
Vous avez parlé de la période de menstruation qui était extrêmement difficile. Est-ce que vous aviez accès à des produits d'hygiène ou aux soins de santé dans ces centres de détention?
Oui, parfois la Croix-Rouge intervenait. C'est la Croix-Rouge qui venait nous apporter des serviettes d'hygiène.
Alioune, En tant que personne qui travaille avec les migrants d'une manière générale, est-ce qu'il existe des politiques spécifiques qui prennent en compte les besoins des femmes migrantes?
Oui, absolument. Il y a par exemple des politiques qui ont été mises en place pour aider les migrants de retour. Il y a également ce qu'on appelle non seulement l'autonomisation de la femme. Donc il y a beaucoup d'associations ou d'ONG ou des politiques étatiques qui veulent accompagner les femmes de retour de la migration pour leur réinsertion. Maintenant, là où le bas blesse, c'est le niveau de formation qui est donné. Très souvent, on voit avec ces organismes, les formations sont la transformation des produits céréaliers, la transformation également des fruits et légumes. Donc c'est véritablement, comme je l'ai dit la dernière fois, des métiers qui ne donnent pas les moyens à l'individu d'avoir un travail décent, d'être autonome. Donc il faudrait que l'État, à ce niveau, puisse relever non seulement l'accompagnement financier, parce qu'on a vu avec l'OIM qui donnait très souvent 50 000 francs aux migrants de retour, c'était très peu, ça ne prenait pas réellement en compte leurs besoins. 50 000 francs, c'est très peu.
Alors là, vous parlez des politiques d'accompagnement pour des personnes qui sont déjà de retour dans leur pays d'origine, mais en amont, sur la route de la migration, est-ce qu'il y a des politiques qui accompagnent en particulier les femmes migrantes?
Non, je n'en connais pas. Sauf que les gens font de la sensibilisation, mais une politique qui les accompagne, je ne connais pas. Donc souvent, nous, en tant qu'association, on fait de la sensibilisation. L'État, en tant que structure, accompagne dans le cadre de la formation, que ce soit l'entrepreneuriat ou bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'autonomisation. Mais c'est peu par rapport au flux que nous sommes en train d'enregistrer.
Aïssatou, est-ce que vous avez eu à bénéficier d'un accompagnement quelconque de la part d'une organisation ou de toute autre association lors de ces détentions dans des centres?
Oui, à mon retour au Sénégal, c'est l'OIM qui a facilité.
Alors,
mon retour.
Avant le retour, on va aborder la question du retour
non,
tout à l'heure,
non,
mais avant
du
le retour.
Du tout. Non, du tout. Il n'y a pas cette politique, j'ai pas vu du tout. À part parfois, c'est la Croix-Rouge qui venait intervenir, mais pas du tout. Voilà.
Est-ce qu'il y avait un traitement spécial pour les femmes, par exemple, qui différencie de ceux dont bénéficient les hommes?
Non, je ne vois pas.
Avant de revenir vers vous, on va écouter un autre avis d'un de nos auditeurs, c'est Nadodi, qui nous vient du Togo.
Bonsoir la VOA Afrique et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique. À mon avis, moi je pense que nos autorités, les autorités africaines, ont plus de problèmes que de s'occuper à des gens ou bien à des personnes qui se sont eux-mêmes liés ou bien mis dans des problèmes délicats ou bien difficiles. Vous savez, tous les Africains veulent voyager, nous voulons tous voyager, mais s'immigrer clandestinement dans un pays ou bien passer par le chemin du désert, de l'immigration ou bien des passeurs pour atteindre l'Europe ou bien l'Amérique, c'est un chemin dangereux que nous connaissons tous. Donc toute personne qui apprend ce chemin-là, lui-même, il est conscient des dangers dans lesquels il se met, il s'est mis. Mais je conseille et je demande à nos autorités s'ils ont le moyen de les aider. Mais les autorités tunisiennes ne peuvent rien faire pour vous car ils ont aussi des personnes pauvres et enfamées chez eux qui doivent nourrir. Donc c'est vous-même qui sont mis dans ces pétrins-là. Donc dans l'avenir, si un Africain veut voyager, passons par la voie légale, faisons nos papiers et passer. Mais le problème ici, nous avons beaucoup de terres ici africaines en Afrique à cultiver. Donc il faut que les États africains trouvent des finances pour financer les jeunes en Afrique, pour qu'ils entreprennent dans des petites choses pour éviter ces genres de catastrophes d'immigration et ce fléau d'immigration qui se passe actuellement en Afrique. C'est ce dont je parle d'Abbas Peace Africa.
La réaction de Sénat Dodi au Togo, je vais m'abstenir de commenter. Je vous laisse le soin de le faire si vous désirez. Aïssatou? Aïssatou? Vous êtes toujours avec
oui,
nous?
Je vous entends.
Une réaction
oui.
à l'avis de Sénat Dodi du Togo?
Bon, il a raison parce que les États africains doivent soutenir les femmes, surtout les femmes, parce qu'elles sont souvent victimes de stigmatisation. À leur retour au pays, elles sont victimes souvent de stigmatisation parce que vous connaissez, immigrer, c'est risqué pour un homme, plus encore pour une femme. Donc quand vous revenez au pays, on vous voit comme, donc, excusez-moi du terme, on se dit qu'elles partent pour vendre leur corps. Alors que tel n'est pas le cas, la plupart, quand elles partent, c'est à cause des problèmes familiaux, soit elles sont divorcées, etc. Elles sont confrontées avec des problèmes énormes. Donc, à leur retour, il doit y avoir une politique spéciale pour les femmes. Mais on ne voit rien. Moi, par exemple, à mon retour au Sénégal, à l'État, je n'ai pas vu vraiment une politique de l'État qui appuie les femmes. Alors que ces femmes-là, elles souffrent de midi, matin, soir. La plupart d'entre elles pensent même y retourner. Quand moi, j'ai eu à faire des sensibilisations avec eux, quand je leur pose des questions, est-ce que vous voulez vraiment rester? Elles me disent qu'elles n'ont pas le choix de rester au pays, parce que ça devient plus difficile encore.
Est-ce que c'est la peur de la stigmatisation, parlant de votre expérience et ça tout, est-ce que c'est cette peur qui vous a poussé à quitter la Russie pour directement envisager l'espace Schengen?
Quoi? Est-ce que vous pouvez répéter?
Est-ce que c'est la peur de la stigmatisation qui vous a contraint à l'aventure? Au lieu de retourner au Sénégal après la Russie.
Ça la fait partie. Parce que nous, on a tendance d'être stigmatisés. Voilà. Ça aussi, ça fait partie, la stigmatisation. Et à mon retour aussi. Jusqu'à présent, nous, on nous stigmatise vraiment. Donc, c'est très, très, très difficile. Donc, sur le plan psychologique aussi, on veut aussi que l'État s'appuie, qu'elle intervienne aussi sur ce côté-là. Parce que les femmes, vraiment, elles souffrent énormément. Ouais.
Ali Wounfel, vous avez suivi la réaction de Céline Dodi qui pense que les États ont mieux à faire que d'accompagner ou bien de contraindre les gens à rester chez eux au lieu de tenter l'aventure vers l'immigration irrégulière.
Oui, j'ai bien suivi sa réaction. Je suis d'accord avec lui que les migrants ou migrantes sont bien conscients des dangers qui les attendent. Il faudrait accentuer la sensibilisation à ce niveau, mais également reconnaître que les États africains ne font pas les efforts qu'il faut. Il n'y a pas véritablement une politique de développement, une politique envers la jeunesse. C'est juste des slogans clairs, que ce soit pour les femmes ou pour les jeunes, il n'y a aucun accompagnement. Comme vous le savez, en Afrique, tout est politisé. Si vous n'êtes pas membre d'un parti politique ou vous n'êtes pas proche de quelqu'un du régime, vous n'êtes pas soutenu. C'est ces mêmes problèmes que les gens vivent un peu partout en Afrique, que ce soit au Sénégal, au Maroc, ou etc., au Burkina, au Niger, un peu, ou en Côte d'Ivoire. Les gens ont tout politisé. Maintenant, il faudrait véritablement que nos États puissent savoir que la force d'une nation, c'est sa jeunesse. Vous prenez le cas du Sénégal où 70% de la population est à majorité jeune. C'est cette force-là qui est notre première richesse. Au-delà des richesses que nous avons dans le sous-sol, que ce soit le pétrole, l'or ou autre chose, la première richesse, c'est le capital humain. Véritablement, nos États devaient revoir leur politique de jeunesse et leur politique d'accompagnement pour fixer les gens. Mais s'il y a déjà, il n'y a pas assez d'industrie. Tout est concentré dans les capitales régionales. Et quand vous allez dans les régions, il n'y a absolument rien qui puisse retenir les gens. Donc, ils sont obligés de migrer à Dakar.
Et on parle du Sénégal, le Sénégal qui connaît énormément de départs ces dernières semaines. Le Sénégal, où vous êtes, Ali Wounfel, a connu énormément de départs des côtes sénégalaises ces dernières semaines. Et pas plus tard que la semaine dernière, l'État a proposé un plan, une stratégie pour empêcher les départs des côtes sénégalaises. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette action et au niveau de Samachance, quelles sont les actions que vous menez en termes de sensibilisation pour que les jeunes puissent rester dans leur milieu?
Moi, je crois que cette validation de la stratégie nationale de la politique migratoire, elle est une bonne chose parce qu'elle repose sur plusieurs axes. Le premier axe, d'abord, c'est la prévention. Donc, comme vous le dites, c'est important que les gens puissent sensibiliser les jeunes pour qu'ils ne puissent pas tenter la migration irrégulière parce qu'il y a des dangers. Le deuxième axe également, c'est l'axe de la répression. Donc, comme vous le savez, les côtes sénégalaises sont surveillées, ou les côtes des pays africains avec le Frontex. Il y a d'autres axes également qui sont des appuis, qui sont de la sensibilisation ou de la formation. Donc, je dis que c'est un bon document. Mais ce document doit sortir des terroirs et matérialiser sur le terrain. Et pour ce faire, il faut véritablement l'implication des acteurs qui sont sur le terrain. C'est pas au niveau macro que tout se décide. C'est bon que les gens puissent être dans la conception, mais dans la réalisation sur le terrain, il faut donner les moyens aux acteurs, les associations, les migrants de retour, les BAOS qui sont au niveau d'accompagner les bureaux d'accompagnement et d'orientation des migrants, pour que les gens puissent réussir ce pari-là. Dire aux jeunes que voilà, nous avons toute cette richesse-là, il faut rester au Sénégal, ça c'est le volet de la sensibilisation, mais également voilà les dangers. Au niveau de nous, au niveau de l'association que j'ai dirigée, ça ma chance, nous avons initié depuis presque un an, on fait des ateliers. À chaque fois, on prend un thème en rapport avec la migration, on essaie de sensibiliser. Et dans la cible que nous essayons de toucher, on ne prend pas simplement, on n'évite pas simplement les migrants, mais on évite également des potentiels migrants. Donc la cible des jeunes qui sont là, qui ont leur diplôme, qui sont à l'université, ou bien qui sont des marchands ambulants, on les invite, on leur tient un discours par rapport aux dangers. On leur donne aussi la possibilité, des informations sur la possibilité de voyager légalement. Et je l'ai déjà dit, si on veut véritablement régler la question de la migration irrégulière, en partie, parce que la migration elle est liée inhérente à l'homme, mais en partie, il faudrait que les gens facilitent l'obtention des visas. Au Sénégal, c'est un casse-tête. Vous avez une invitation par voie normale, vous avez autre chose, vous allez au niveau des ambassades, vous n'avez pas de rendez-vous ou bien on le refuse. Donc, si véritablement on veut décourager les candidats à l'immigration au plan irrégulier, il faudrait que l'État, en rapport avec les ambassades, souverainement, puisse discuter avec eux pour que les gens puissent faciliter l'obtention de visas et de rendez-vous.
Sur notre page Facebook, il y a Tierno Diallo qui pense qu'il faut absolument continuer à travailler pour que nos différents États soient des pays qui respectent le droit de l'homme, car ce qui se passe en Afrique du Nord est inacceptable. Donc il faut que l'Union africaine hausse le ton pour que les ressortissants subsahariens soient sous protection des autorités. Avant de revenir vers vous, Aïssatou, on va écouter un dernier avis d'un de nos auditeurs, Alphonse Mbouaki, qui est de la RDC.
Si on veut fournir, si on veut mettre fin à la violence pendant l'immigration, je pense qu'il faut que des solutions viennent dans les pays de départ. Lorsque les femmes trouvent des conditions qui répondent à leur autonomisation, je trouve qu'elles ne vont pas chercher à aller ailleurs, à la recherche des vies meilleures. Si on emprunte des chemins de désert pour passer la Méditerranée, arriver en Europe, c'est parce qu'ici, sur place, les femmes sont dans la pauvreté, dans le manque d'emploi, dans la misère. C'est ce que elle cherche à accompagner des jeunes gens ou à aller ensemble avec des jeunes gens, avec leurs enfants.
Merci Alphonse Mbouaki de la RDC. Je vous laisse conclure ce débat à Aïssatou pour nous dire brièvement les actions que vous menez avec l'OIM en termes d'accompagnement d'autres jeunes qui désirent quitter le Sénégal.
Oui, je suis avec l'OIM pour un projet qui s'appelle Migrants comme messagers. Donc le projet visé à... Donc, c'est le projet qui est dans 7 pays de l'Afrique. Donc, au Sénégal, nous, on a presque sillonné le Sénégal. Et on faisait des sensibilisations. Moi, j'accentue surtout vers les femmes parce que je me concentre plus vers les femmes. Parce que ce que je vois dans le désert et tout, je ne souhaite pas qu'une autre femme vive ce que moi j'ai déjà vécu. Parce que j'ai été témoin de voir des femmes qu'on a violées. Et au retour aussi, des femmes viennent avec des maladies. Parfois, même, ils n'arrivent même pas à être recueillis par leur propre famille, donc des difficultés. Donc, moi, ce que je conseille, les femmes, surtout, il ne faut pas tenter cette voie. Merci. Il y a beaucoup de dangers, il y a beaucoup de difficultés. Au retour aussi, qui risque d'être malade, qui risque d'être refusé par sa famille, etc. On voit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples.
Merci. Merci beaucoup à Aïssatou Ndiaye du Sénégal, à Alioune Fall également du Sénégal. Merci à vous qui avez suivi ce débat. Alexandrine Franc-Lognon à la présentation, Fatoumata Kalala à la réalisation. Tout de suite, un nouveau journal avec Jean-Roger Billon et continue de vivre l'actualité sur VOA Afrique. Ah, on me prévient que nous avons encore une minute dont je peux laisser Alioune Fall pour clore ce débat. Alioune Fall, un dernier mot avant de nous quitter.
Oui, je suis là.
On a écouté les conseils d'Aïssatou qui conseille aux femmes de ne pas tenter l'immigration. Aïssatou qui embrasse aujourd'hui sa vie de jeune mère et de femme qui sensibilise d'autres femmes pour éviter les dangers de la migration. Et vous également, c'est un travail que vous faites au niveau de votre association, ça m'a chance, en quelques secondes.
Oui, le travail que nous faisons, on fait de l'accompagnement. Et surtout, un volet très important, l'accompagnement psychosocial. Tous les migrants qui sont revenus et qui sont passés par notre centre, d'abord, dès que nous sommes informés, nous dépêchons une équipe au niveau de l'aéroport.
Merci, merci. Très bonne soirée à toutes et à tous.